Les racontars de Citrouille Amère. 10 minutes pour une œuvre d'art. Bonjour. Les racontars de Citrouille Amère reviennent pour une nouvelle saison. Nous garderons le même rythme que l'année dernière, c'est-à-dire une émission tous les 15 jours. Le tableau qui va ouvrir la saison devrait vous surprendre. Votre réaction, c'est la suivante. On n'y voit rien. C'est vrai, il désoriente. Parce que lorsqu'on le regarde, on voit des registres, c'est-à-dire des bandes horizontales superposées. Mais on ne sait pas ce que ça représente. Alors regardez la bande du haut, le registre du haut. C'est des cercles qui sont par moitié bruns et par moitié ocre très clair, et qui ont une bande verticale. Le registre qui suit, c'est-à-dire juste en dessous, est composé de bleu, un camaïeu de bleu, fait par grosses touches. Et il est suivi d'un autre registre, mais il est séparé du registre suivant par une bande qui ondule dans des tons ocre et ocre clair. Et à nouveau, une bande bleue faite de très grosses taches. Et à nouveau, une bande horizontale faite dans des tons ocre. Le dernier registre se termine par un L dont la branche verticale se compose par moitié de bleu et de noir, alors que la bande horizontale est complètement noire. Et alors, vous voyez toujours pas ? Eh bien, je vais vous aider. Le titre. Petite fille courant sur un balcon. Ah, ça y est, vous voyez. Vous la voyez nettement. En haut, vous voyez sa tête, vous voyez son visage, ses cheveux avec une tresse, avec un nœud bleu. En dessous, vous voyez son tablier bleu, sa main qui ondule. Un peu plus bas, vous voyez son genou qui se déplace dans le temps, et en bas, c'est le cas de le dire, le bas de qu'elle porte, dans une paire de chaussures allégées talons. Le tableau, Pillette courant sur un balcon, de Giacomo Balla, huile sur toile, de 1,25 m par 1,25 m, peinte en 1912, conservée au musée del Nuovo Centro de Milan. Giacomo Balla appartient au groupe fondateur du mouvement futuriste italien. Il a rédigé plusieurs articles du Manifeste du futurisme italien qui a été publié en 1909 dans le Figaro. On peut s'étonner que le Manifeste futuriste italien soit publié dans un journal français. Le mouvement considérait que la langue italienne était beaucoup trop ancrée dans la Renaissance et l'Antiquité. C'est pour ça qu'ils se sont tournés, pour un mouvement d'avant-garde, vers le journal français. Les artistes de ce groupe sont fascinés par la modernité, par la vitesse, les sciences nouvelles et les applications de ces sciences. La vie urbaine, toujours en mouvement, les fascine. Leur recherche les pousse à traduire en peinture la notion de vitesse, également en sculpture, ce qui les pousse à favoriser le flou, la géométrisation, la mécanisation par la répétition. Ils feront aussi des tentatives en architecture. Bien que les futuristes italiens soient très ancrés dans les arts visuels, la musique était pour eux une sorte d'art du bruit. Ils vont donc produire un manifeste, l'art du bruit. Et ils vont aller jusqu'à inventer un instrument de musique, l'intonaturanubri, instrument à bruit en français, sorte de gros cube muni d'un pavillon acoustique, dont l'aspect me fait penser au gaffophone de Gaston Lagaffe, mais en beaucoup moins esthétique. Ce mouvement a aussi un côté obscur. Très misogyne, il va survaloriser la guerre, selon eux, la seule hygiène du monde. Certains des artistes du mouvement futuriste italien dont le fondateur Filippo Moretti, rejoindront le mouvement fasciste de Mussolini. Revenons au tableau de Ballard. Celui-ci s'inspire, pour sa réalisation, des techniques pointillistes développées par Signac et Seurat. Mais toutefois, les touches utilisées sont beaucoup plus larges. Et il n'utilise pas les techniques de juxtaposition de très petites touches pour obtenir des teintes de couleurs différentes. En se basant sur l'illusion créée par la juxtaposition de très petites touches, technique mise au point par le théoricien de la couleur, Michel-Eugène Chevreul. Par ailleurs, il s'inspire de la chronophotographie qui émerge dans les années 1880 suite à un débat très violent dans lequel les gens prétendaient, certains artistes prétendaient, qu'un cheval au galop, à un moment donné, ne touchait pas du tout le sol avec ses jambes. Le fameux galop volant des artistes. Au tout début des années 1880, le photographe américain Muybridge réalise une série de photographies qui met en évidence qu'un cheval a toujours une jambe au sol. 4 ans après les travaux de Muybridge, le physiologiste français Étienne Jules Marais met au point son célèbre fusil photographique et invente ainsi la chronophotographie. Dans le but d'améliorer les prothèses orthopédiques, la chronophotographie est un ancêtre du cinéma. Presque au même moment, Marcel Duchamp, s'inspirant de la chronophotographie, en 1912, crée l'événement par un tableau, nu descendant l'escalier numéro 2. En ce début du XXe siècle, les artistes, séduits par la vitesse, cherchent à représenter le mouvement dans leurs œuvres. Cette tendance prend fin avec la Première Guerre mondiale. Dans les années 1950-1960, les artistes se passionnent à nouveau pour le mouvement dans leurs œuvres, mais cette fois en s'appuyant sur des techniques très différentes, comme les effets d'optique et la superposition de lignes. Parmi les artistes de ce mouvement, on citera Bridget Ritley et Jean Tinclair. Ces recherches aboutiront dans les années 1960 à l'émergence de l'art optique, l'op art. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est ainsi que se terminent les racontars de Citrouille Amère. J'ai eu grand plaisir à vous retrouver et comme d'habitude, Quentin et Marie étaient en régie. On se retrouve dans 15 jours.
Bill Péradieu.